Donc, je vais essayer de faire une... une présentation un peu de l'enseignement professionnel en me situant d'un double point de vue. D'abord un point de vue donc sociologique, hein, puisque je m'appuie un peu sur des travaux que j'ai pu conduire pendant plusieurs années. Et même en étant dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui, je reste fondamentalement sociologue, puisque l'idée c'est aussi d'analyser un peu notre système et d'essayer de trouver un peu des réponses à des problèmes que rencontrent évidemment les publics, puisque l'objectif c'est d'amener les élèves à la réussite, mais des problèmes aussi que rencontrent les enseignants, les équipes éducatives, parce qu'au fond, aujourd'hui, je ne vous apprends pas que l'institution scolaire dessine des orientations, mais l'institution scolaire demande aux acteurs de prendre en charge les problèmes en question, c'est-à-dire on dit grosso modo ce qu'il faut atteindre comme objectif, mais c'est aux acteurs d'inventer des réponses. Et de ce point de vue, le lycée professionnel offre toujours un peu l'image d'un univers dans lequel à la fois on innove, dans lequel il y a des belles réussites, mais dans lequel aussi il y a de l'usure professionnelle, et où on a besoin aussi de réinventer des collectifs professionnels, parce que on court toujours le risque de vivre un peu son métier sur le mode individuel, jusqu'à parfois culpabiliser, parce que le métier, évidemment, est éprouvant, et dans certains cas, ça oblige évidemment les individus à trouver des ressources qu'ils n'ont pas toujours. Alors, je disais en introduction que je vais me positionner du point de vue sociologique, mais point de vue aussi, on pourrait dire éthique, puisque l'enjeu de l'école, ça reste quand même la réussite de tous les élèves. Hein. Et donc, la réussite des élèves est déjà en elle-même, elle interroge notre système. Pourquoi ? Parce que cette réussite est extrêmement compliquée à définir dans la mesure où le système scolaire est un système fortement hiérarchisé. Par exemple, j'étais hier avec des élèves de première professionnelle et un élève en particulier qui a fait un parcours de CAP après avoir fait une troisième d'insertion et qui me racontait un peu toute la difficulté qu'il a eue à être pris en première professionnelle parce que, selon son point de vue, c'est ce qu'il disait, comme il venait d'une troisième d'insertion, comme si ça l'avait marqué, si vous voulez, il n'était pas aussi légitime pour être dans une première professionnelle. Or, il s'avère qu'il est en première professionnelle d'accueil, hein, qui rejoint un peu dans le... Il avait fait un CAP dans la multi-activité, multi-service. Il s'avère qu'il est en très bonne réussite en première professionnelle. Donc, en fait... une tension qu'on va remarquer, et c'est pour ça que je ne suis pas totalement convaincu que l'approche, quand on analyse le système scolaire, il faut partir seulement des statistiques, il faut partir aussi des expériences. Et donc la notion d'expérience, c'est aussi un élément qui va que vous allez voir dans ma présentation pour tenir compte un peu de cette évolution du système scolaire, et en particulier du lycée professionnel. Alors, quelques informations pour présenter un peu les choses. D'abord, vous savez que le lycée professionnel a cette particularité d'être un terrain extrêmement complexe. Hein. On n'a pas un lycée professionnel qui ressemble à un autre. La diversité est telle que, parfois, on n'a pas l'impression d'être dans un même monde quand il s'agit d'un lycée professionnel de 300 élèves qui accueille plutôt des élèves du tertiaire et un lycée industriel qui est intégré à un grand lycée général et technologique et donc qui devient un lycée polyvalent. Donc déjà, le contexte des lycées professionnels est extrêmement varié. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, paradoxalement, un diplôme sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui est le CAP, est un diplôme qui a été tout le temps un peu remis en question, remis en cause, etc. Et on voit en même temps que c'est un diplôme qui est encore reconfirmé dans son rôle. Par exemple, quand on voit qu'il y a 165 CAP, c'est quand même pas rien. Qu'il y a plus de 80 baccalauréats professionnels, donc il y a plus de CAP que de bac pro, en termes de spécialité de filière et de domaine professionnel. Et voilà, j'ai mis les nombres de BTS parce que vous savez qu'il y a une tendance de plus en plus chez les élèves de bac professionnel à poursuivre des études. C'est aussi un élément et un enjeu aussi du lycée professionnel aujourd'hui. Donc on peut dire, de façon très générale, que le lycée professionnel est un lieu, c'est l'hypothèse que j'avais avancée, que je maintiens aujourd'hui, qui est de dire c'est un lieu à la fois de formation des futurs ouvriers et surtout des futurs employés, puisqu'ils forment plus au tertiaire qu'à l'industriel, et mais aussi c'est un lieu de maturation des jeunes. Alors pourquoi c'est un lieu de maturation des jeunes ? Parce que le travail des enseignants, des équipes éducatives, est un travail qui est essentiellement basé d'abord sur la relation, sur la qualité de la relation aux élèves. Et les élèves, quand on les interroge d'ailleurs systématiquement, que ce soit en 2000 ou hier ou la semaine dernière, systématiquement quand ils parlent du lycée professionnel, ils comparent les pratiques pédagogiques. Hein. Et donc c'est quand même très important. L'entrée sur l'expérience, c'est d'abord la pédagogie. Et la pédagogie pour eux, c'est le fait que les enseignants prennent le temps de les comprendre, parfois de trop les comprendre. Donc il y a aussi cette difficulté à maintenir une bonne distance hein, avec l'enseignant. Et donc la relation est un élément extrêmement important. Non pas parce que les élèves de lycée professionnel fonctionneraient, comme on dit souvent, à l'affectif. Hein, c'est un peu une sorte de... On va trop vite. Mais c'est parce que ils estiment qu'ils sont dignes aussi d'être pris en considération, d'être pris comme des sujets, et que l'exigence scolaire, c'est aussi une forme de respect vis-à-vis de ces élèves, mais c'est une exigence qui doit tenir compte de leurs difficultés. Alors, reste à savoir lesquelles. Comme en général, ils évoquent les difficultés sociales et familiales, mais aussi ils évoquent des difficultés intellectuelles ou cognitives liées à la situation pédagogique. On ne raisonne pas sur la même chose. Et donc cette hypothèse de la maturation juvénile explique aussi que le travail dans les lycées professionnels est sans doute plus éprouvant, et d'autant plus que, grosso modo, l'image des lycées professionnels jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été l'image de lycées industriels. Hein, je ne sais pas, alors c'était très intéressant hier, vous voyez, les élèves sont extrêmement lucides, hein, contrairement à ce qu'on entend toujours. L'élève qui me dit hier, alors il était un autre élève qui est dans un, qui prépare un bac professionnel dans l'aide, tout ce qui est personnes, soins et accompagnement, il me dit, vous vous rendez compte, j'ai vu un reportage il y a 15 jours sur une grande chaîne de télévision sur le lycée professionnel, et qu'est-ce qu'on montre? On montre un lycée professionnel, un élève qui arrive en retard, des élèves qui n'ont pas choisi leur orientation. Or, il me dit, il n'y a qu'à venir dans ma classe et vous allez voir que la plupart des élèves ont choisi leur formation. Donc pourquoi le lycée reste plutôt associé à l'image de l'industrie, alors que la réalité, c'est que les lycées professionnels forment de moins en moins des industriels et de plus en plus des employés. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc cette image du lycée industriel est une image qui fonctionne comme un écran, hein, parce que on a toujours l'image des métiers difficiles, métiers un peu compliqués, et paradoxalement, les élèves, quand on les interroge, d'abord, c'est pas cette image qui apparaît le plus fortement, notamment les élèves qui y sont, mais aussi, vous savez qu'il y a une évolution, notamment de la population active, et que la classe ouvrière. Et de plus, elle est maintenant plus majoritaire, hein, quand on voit la population active. Et donc la difficulté des élèves, c'est comment construire un sens aux études quand les métiers ne sont plus toujours visibles, notamment dans le tertiaire. Hein. Voilà. Donc on peut dire l'évolution, elle est plutôt à ce niveau-là. Et de ce point de vue, donc cette image est quand même assez ancrée dans les médias. Et souvent d'ailleurs, on ne parle de lycée professionnel que pour dire qu'il y a des problèmes dans ces lycées. Donc moi, j'ai fait le pari, et c'est un travail que j'essaie de mener, d'abord de faire des visites d'établissements et d'essayer de voir aussi ce qui marche, et pas seulement ce qui pose problème, hein, parce que souvent, on est un peu dans le sorte de réductionnisme qui est extrêmement fâcheux. Alors, pour avoir une idée un peu sur l'évolution des publics, à la rentrée, par exemple, 2011, voyez un petit peu les effectifs hein, sur l'évolution. Incontestablement, ce qu'on remarque, c'est que les effectifs de la voie professionnelle, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, en valeur absolue, ce sont des effectifs qui ont baissé. Hein. Il y a une baisse d'effectifs. Pourquoi ? Parce que, avec la création des filières technologiques au milieu des années 80, les élèves qui allaient vers la voie professionnelle se sont orientés vers la filière technologique. Donc ça, c'était, on peut dire, un constat qu'on peut faire jusqu'en 2007-2008. À partir de la création du bac pro 3 ans, il y a eu un petit effet, un effet sur les publics, puisque une partie des élèves qui allaient vers la voie technologique vont vers la voie professionnelle aujourd'hui. Ce qui peut aussi expliquer, par exemple, la volonté de poursuivre des études après. Hein, c'est-à-dire, on peut pas expliquer pourquoi des élèves veulent poursuivre des études de plus en plus après le bac, si on ne fait pas l'hypothèse aussi que certains élèves choisissent cette filière pour aller plus loin après ça leur assure un compromis entre l'école et la vie professionnelle. C'est d'ailleurs sans doute ce que dans l'enquête de, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'enquête dont Vincent Trogier a dû vous parler notamment hier. Donc il y a une évolution. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le nombre de CAP délivrés a augmenté. Par exemple, en 2011, il y a 23 000 titulaires de CAP de plus. Donc on peut faire aussi l'hypothèse qu'une partie des élèves qui allaient vers le BEP ou la seconde professionnelle choisissent, hein, on reviendra tout à l'heure sur la notion de choix, de faire un CAP, quitte après peut-être à vouloir poursuivre des études. Hein. Donc le CAP continue aussi à avoir un effet d'attractivité sur une partie des publics scolaires, y compris des élèves issus de troisième donc général. Alors en même temps, cette évolution se paye par des conséquences. Je ne vous apprends pas que le lycée professionnel reste concerné aussi par un taux d'absentéisme important qui est de l'ordre de 15%, mais qui varie aussi en fonction des établissements. Par exemple, j'ai remarqué, en visitant un établissement il y a quelque temps, enfin c'était au mois de février dans l'académie de Nancy-Metz, un établissement où le taux d'absentéisme était en dessous de 5%. Et pourquoi ? Parce que l'établissement a développé une politique d'internat qui fait que la moitié des élèves sont internes et que le suivi est sans doute mieux assuré dans ces conditions. Avec évidemment, comme ce sont en plus des élèves qui viennent... Alors l'argument, c'était aussi parce qu'ils viennent un peu, le département est mal desservi au niveau transport, donc ça a un effet. Donc on ne peut pas exclure aussi l'idée que le contexte scolaire en lui-même, l'infrastructure, détermine ou pèse aussi sur la réussite scolaire. Donc le problème actuellement, c'est qu'une partie des élèves sortent finalement du lycée professionnel sans avoir de diplôme. Et alors paradoxalement, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a plus d'élèves qui ont le bac pro qu'auparavant, hein, 50% aujourd'hui, 38% avant, mais il y a plus d'élèves qui se retrouvent sans le bac professionnel ou sans le diplôme intermédiaire. Donc ça interroge aussi sur la capacité qu'ont les établissements à faire face notamment à ces évolutions et donc surtout à analyser et mieux analyser un peu ce phénomène qu'on appelle le décrochage. La réforme du bac professionnel, évidemment, a eu un certain nombre d'effets. Alors, sur le plan plus général, je rappelle simplement ce qui était dit hein, lorsque le ministère avait décidé donc de créer ce bac pro en 3 ans. Alors, parmi les objectifs qui avaient été affichés, l'idée, c'était de dire on va augmenter les flux vers le bac pro en créant un parcours continu en 3 ans. Et la moitié des élèves engagés dans la voie professionnelle jusqu'ici, à peine la moitié, c'était 40%, pouvaient aspirer au bac pro. Là, on va essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire atteindre notamment pourquoi pas l'objectif de 80%. Et donc, du coup, c'est un peu l'objet, la finalité. Deuxième idée qui a été avancée, diminuer les sorties sans qualification excessivement nombreuses avant le niveau 5. Et cette diminution des sorties sans qualification explique aussi le processus d'évaluation, puisque la mise en œuvre du contrôle en cours de formation s'inscrit aussi dans cet objectif, hein, c'est-à-dire le fait de valider, et ça oblige, c'est ça aussi l'évolution, hein, c'est une révolution d'une certaine manière, parce que l'enseignant n'est plus seulement celui qui doit transmettre, mais celui qui doit valider. Donc il doit s'assurer que les élèves ont appris, c'est quand même pas la même logique. Hein. Et donc, ça impose aussi des contraintes, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque dans les établissements, il y a effectivement cette, on le voit très bien, le rythme d'évaluation. Des enseignants qui me disaient la fois dernière, on passe beaucoup de temps à l'évaluation, à tel point qu'on se demande si on enseigne à un moment. Donc du coup, il faut aussi interroger un peu ces contraintes et voir un peu quelles solutions. Parce que le concept est intéressant, mais la mise en œuvre recèle des contraintes et des difficultés. Et puis, contribuer à l'élévation des niveaux de qualification pour faciliter la poursuite d'études, en particulier vers les BTS. Le constat que l'on peut faire, c'est que, incontestablement, réussir à l'école pour les élèves, en lycée professionnel, c'est aussi construire de l'ambition. La chose la plus frappante quand on les écoute et quand on voit, c'est qu'en fait, c'est pas tant l'insertion professionnelle qui est mise en avant, même s'ils vous disent le diplôme c'est important pour trouver un emploi, que le fait de réussir à maîtriser des connaissances qui donnent envie d'aller plus loin. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi, ce qu'on appelle l'estime de soi, la légitimité de l'individu, qui est liée au savoir, hein, et pas seulement à l'insertion professionnelle. Je dis d'autant plus que les arguments qu'on peut avoir quand on dit aux élèves « il faut étudier, il faut réussir pour trouver du travail » sont les premiers à vous dire de toute façon « oui, oui, on sait ». Mais savoir ne veut pas dire s'approprier. Donc en fait, les raisons ne sont pas les mêmes. Les élèves, ils ont aussi des aspirations. Et par exemple, quand j'ai enquêté sur les élèves des étudiants, hein, je vous en ai parlé pour ceux qui... J'avais vu l'année dernière, j'avais évoqué l'enquête que j'avais menée sur les étudiants à l'université. Les étudiants qui s'inscrivent après un bac pro à l'université, quand on les écoute, c'est pas l'emploi qui est en jeu. Certains d'entre eux s'inscrivent alors qu'ils avaient la possibilité de s'insérer professionnellement. Donc ils disent, moi, je veux vivre la vie d'étudiant, pourquoi pas ? Pourquoi pas à mon tour ? Donc il y a quelque chose qui se joue dans la dignité hein, qui est apportée par l'école. Ce qui permet de dire aussi que ces élèves ne sont pas antiscolaires. Hein. C'est peut-être une forme d'opposition à un type d'enseignement qui est en jeu qu'une forme d'opposition à la formation, à l'apprentissage. Et une parenthèse encore, quand on voit un peu, je disais tout à l'heure, les médias, je pense aussi, je l'avais dit à certains collègues sociologues, qui, les rares qui travaillent sur l'enseignement professionnel, ont tendance aussi à se focaliser sur les problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des problèmes, je dis simplement qu'il faut aussi parler des autres réussites. Alors l'exemple typique, quand les médias disent « les bacs pro à l'université, vous voyez, c'est une catastrophe », c'est vrai qu'il y a peu de chances de réussite quand vous êtes à l'université si vous avez un bac professionnel, mais la majorité ne sont pas à l'université. La majorité, s'ils sont en BTS. Donc du coup, ça induit tout un imaginaire, vous voyez, on dépense de l'argent public pour rien, etc. Donc ça va très très loin dans un certain nombre de considérations. Et donc la poursuite d'études est aussi un élément. Hein. Il faut bien savoir ou souligner le fait que la réussite scolaire pour les élèves, c'est aussi une façon de se construire, c'est aussi une façon d'avoir une certaine dignité. Je prends un témoignage là encore hein, d'une élève qui est en bio-industrie de transformation terminale et qui me raconte un peu son parcours. En disant, quand j'étais en collège, j'avais de mauvaises notes, j'étais pas une bonne élève, j'étais chahuteuse, etc. Donc en fait, toute la panoplie des problèmes, exclus, etc. Et quand je suis venu au lycée professionnel, d'abord elle a découvert, comme tous les élèves, qu'il y a des enseignements généraux, qu'il y a de la pratique, mais qu'il y a aussi de la technologie. Donc elle a dû construire aussi, construire un rapport au savoir un peu plus positif. Et la phrase intéressante, c'est quand elle dit à un moment « mes parents ne m'ont plus reconnu ». Mais pas au sens négatif, au sens positif. Je n'étais plus la même, parce qu'au collège, c'était des problèmes, donc les relations aux parents étaient mauvaises. Et réussir à l'école, c'est aussi construire une dignité, parce que ça définit et ça redéfinit aussi le rapport aux autres, ce qui était un petit peu en jeu. Et donc on arrive un peu à cette question. Au fond, le travail enseignant face aux mutations du lycée professionnel, c'est public. Je vais un peu introduire peut-être un raisonnement plus sociologique pour comprendre un petit peu ces évolutions. Alors, ce travail enseignant, il est mis à l'épreuve. Hein, je disais tout à l'heure, des éléments sur lesquels je vais faire un petit développement. D'abord, un travail mis à l'épreuve par les évolutions institutionnelles, hein, évolution notamment des modes de certification, bac professionnel 3 ans. Évolution aussi de l'interinstitutionnel. Par exemple, vous savez que les lycées professionnels peuvent signer des conventions avec les CFA pour l'apprentissage, donc ça induit aussi des rapports différenciés. Ça déstabilise aussi, ça peut avoir des effets. Donc, évolution institutionnelle, je vais en dire un mot après. Le poids aussi de l'héritage historique, il ne faut pas oublier. Quand on dit les élèves s'orientent, préfèrent le tertiaire à l'industriel, c'est pas par hasard. Hein. Donc il faut bien aussi comprendre que l'industriel a vécu, il a conduit aussi à une certaine image qui d'ailleurs est utilisée de façon assez négative, hein, ce que je disais tout à l'heure sur les médias. Et donc il y a aussi l'histoire dans le rapport au projet, le rapport à l'avenir chez les élèves. La diversité aussi des élèves, le rapport au savoir, c'est un élément important. Quand vous lisez un livre qui avait fait un peu de bruit, qui s'appelle « Le niveau monte hein, », Baudelot et Stablé, 89, ils disent, au fond, il y a un passage intéressant, ils disent, en fait, les lycées professionnels, les élèves, frappent tout autant par leur différence, diversité, que par la ressemblance de leur catégorie sociale. Donc, en fait, il n'y a pas un élève qui ressemble à un autre, même quand ils viennent du même milieu social. Ce qui amène, évidemment, à s'interroger sur l'importance, le rôle que joue l'établissement, la pédagogie dans l'apprentissage, quand des élèves à même profil social réussissent différemment. Donc il faut s'interroger aussi sur le rapport au savoir. Et puis, l'élément sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est l'importance de rompre avec ce que j'appelle une sociologie misérabiliste, c'est-à-dire une sociologie qui ne voit le lycée professionnel que comme institution dominée. J'ai fait le pari depuis le début, depuis les recherches, de ne pas tomber dans ce piège. Parce que quand on part simplement des problèmes et quand on dit les élèves ne réussissent pas parce qu'ils ont des problèmes sociaux, c'est oublier qu'il y a d'abord des élèves qui réussissent, et que même lorsqu'il y a des problèmes sociaux, des élèves aussi réussissent. Donc en fait, c'est peut-être aussi parfois, on a tendance à appliquer un raisonnement extérieur. Sans le vouloir, on applique le même raisonnement que les individus qui ne voient le lycée professionnel qu'en lien avec relation avec la voie générale, par exemple. Donc cette question du rôle ou de la perception un peu misérabiliste de ces évolutions. Alors parmi les évolutions institutionnelles, d'abord, on passe aujourd'hui, on est passé de l'école des ouvriers à celle des employés. L'école des ouvriers, c'était à peu près, si vous voulez, le lycée professionnel qui formait des futurs ouvriers qualifiés, reconnus sur le marché du travail, qui allaient constituer une aristocratie ouvrière. Jusqu'au milieu des années 70, c'était l'essentiel des formations, étaient des formations industrielles, et les élèves s'orientaient aussi vers le lycée professionnel, avec la volonté de connaître une insertion professionnelle et puis une mobilité sociale comme leurs parents, parce que le diplôme l'assurait d'une certaine manière. Vous pouviez commencer avec un CAP et aller jusque parfois diplôme d'ingénieur, jusqu'au statut d'ingénieur. Et quand j'avais enquêté dans une autre recherche sur les entreprises et la formation continue des adultes, je voyais bien qu'il y avait effectivement des agents de maîtrise ou des cadres qui étaient anciennement ouvriers. C'est difficile aujourd'hui. Donc il y a déjà une évolution par rapport à ça. Donc cette école des ouvriers était une école où on formait les élèves à une culture qui était une culture humaine ou humaniste, mais aussi une culture professionnelle du métier bien fait, avec une autonomie, une fierté, la valorisation des collectifs, etc. Donc ce qui se passait à l'époque, c'est que l'expérience des élèves était pratiquement, on peut dire, en phase avec le marché du travail. Donc il y avait une sorte de proximité entre formation et insertion. Et de toute façon, n'en déplaise aux enseignants aujourd'hui qui disent que c'était un âge d'or, quand on lit les archives, et Vincent Trouget connaît très bien, et mieux que moi, l'histoire de l'enseignement professionnel, il vous dira, quand on lit les archives, on s'aperçoit que c'était aussi des élèves perturbateurs, des élèves qui étaient très durs, rappelez fidèlement, et qui développaient une contre-culture. Ils développaient ce que les sociologues britanniques appellent une contre-culture, c'est-à-dire une culture ouvrière qui s'oppose à la culture scolaire perçue comme une culture bourgeoise. Donc c'était une ère révolue, mais qui a formé effectivement les anciennes générations. Ces anciennes générations étaient composées aussi d'enseignants. Ces enseignants qui étaient issus aussi des milieux professionnels. Une partie d'entre eux. Donc, c'était les enseignants des matières pratiques, on appelait cela, ou matières technologiques et pratiques, qui avaient ce que j'ai appelé une proximité culturelle avec leurs élèves. Cette proximité culturelle qui faisait qu'on comprenait nos élèves parce qu'on venait à peu près du même milieu et parce qu'on pouvait aussi leur montrer que grâce à l'école, on peut s'en sortir. La preuve, on est devenu enseignant après avoir été ouvrier ou technicien. Donc, cette proximité culturelle a assuré aussi le fonctionnement des anciennes générations. Si on passe aujourd'hui, et c'est ça l'évolution, c'est toujours important de comparer, même si évidemment il n'y a aucune nostalgie dans mon propos, c'est de dire aussi ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait il y a la proximité de culture a laissé place à ce que j'ai appelé une proximité de condition. Proximité de condition, c'est le fait que les enseignants de lycée professionnel, une partie d'entre eux, ont une certaine difficulté à se positionner dans cette institution parce qu'elle leur apparaît comme étant une institution moins scolaire et parfois, disons-le, moins digne que l'institution filière générale et technologique. Je veux dire par là que tant que la formation professionnelle était en dehors d'éducation nationale, il n'y avait pas de difficulté. C'était une voie aussi digne que la voie scolaire. Quand on a intégré la formation professionnelle des ouvriers et des futurs employés à l'éducation nationale, c'est devenu moins digne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les individus se comparent. Hein. Je vais vers le lycée professionnel parce que je ne peux pas aller vers la voie générale et technologique. Donc cette intériorisation de cette hiérarchie scolaire conduit certains enseignants à ne pas se sentir aussi prof que les autres. Et parfois même à être pas forcément dans une sorte de dévalorisation de soi, mais en tout cas à se dire qu'ils ont plus de mérite pédagogique avec leurs élèves, mais ils ont peut-être moins de mérite scolaire. Or, je vais vous donner un chiffre. Contrairement à une idée reçue, il est plus difficile de réussir le PLP que de réussir le CAPES. Et même si j'ai eu des enseignants de lycée professionnel qui m'ont dit « j'avais passé le CAPES et le PLP, finalement j'ai eu le PLP », ça ne veut pas dire que la chose était plus facile. Simplement, dans les représentations, dans l'imaginaire, regardez les chiffres, il suffit de regarder, si vous allez sur le site, vous verrez, il y a un peu cette idée que, comme on n'a pas réussi, on se rabat sur, donc du coup, on n'est pas forcément aussi prof que, ou aussi bien que ce qu'on aurait voulu faire. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. On a des PLB qui ont choisi d'enseigner, et je fais l'hypothèse, comme pour les élèves, que ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas choisi qu'ils ne sont pas de bons profs. Vous voyez, donc c'est, on peut aussi avoir les gens qui ont choisi et qui ne sont pas forcément impliqués, mobilisés, etc. Donc, ce que j'ai appelé la proximité de culture est remplacé aujourd'hui par ce que j'ai appelé une proximité de conditions. Hein, proximité de conditions, c'est le fait de partager avec les élèves ce sentiment que l'on a un défi ensemble à surmonter, c'est de valoriser notre expérience, de valoriser la voie professionnelle par la valorisation des réussites et par la valorisation de la pédagogie. Et de ce point de vue, cette proximité de conditions peut expliquer en partie la mobilisation des enseignants et donc le fait de s'engager dans des activités d'innovation, d'activités aussi de concertation, etc. Moi, je vois par exemple, mais je ne veux pas découvrir, c'est des choses que vous connaissez aussi, que dans des lycées professionnels, dans les établissements, il y a des gens qui s'investissent, qui ne comptent pas leur temps. Hein, quand on dit temps scolaire, etc., les gens ne sont pas là pour dire je fais mes cours et puis je m'en vais. Donc il y a un vrai investissement qui a sans doute un coût, parce que ça veut dire aussi que, je vous disais tout à l'heure, il faut promouvoir le collectif et que et l'usure est un peu là. Donc il faut aussi que les individus et les collectifs professionnels s'organisent sans doute plus fortement. Et les enquêtes les plus statistiques et quantitatives montrent que le travail collectif est plus développé en lycée professionnel qu'ailleurs. Alors, un lycée professionnel, donc le contexte, peut valoriser malgré l'essor du bac professionnel. Il faut en dire un mot aussi parce que le bac professionnel, il a consacré l'ouvrier bachelier. Hein, quand on l'a créé en 85, l'image, c'était pas simple. Hein. D'ailleurs, les chefs d'établissement le savent très bien. Ce qui a fait que le bac professionnel a été créé, c'est aussi l'influence des chefs d'établissement, hein, de leurs syndicats représentants, parce que ils voyaient bien que le bac pro allait redorer l'image du lycée professionnel. Alors, cette formation, donc, entre 4 ans au départ et puis 3 ans par la suite, eh bien, elle a eu un effet, hein, qu'on peut souligner de la manière suivante. Le bac professionnel, donc, a conduit aussi à la scolarisation de la formation au lycée professionnel. Hein, c'est-à-dire les enseignements sont devenus un peu plus théoriques, sont devenus un peu plus abstraits, un peu intellectualisation. Stéphane Beau dit à une sorte de déprofessionnalisation. Je ne pense pas que ce soit une déprofessionnalisation. Je pense que c'est une scolarisation du professionnel. Hein, c'est pas la même chose. Hein, c'est-à-dire on travaille aussi, on construit effectivement. Quand on fait de la technologie, c'est pas de la technologie pour la technologie, c'est aussi la technologie pour apprendre des savoirs procéduraux qui s'intègre au savoir professionnel. Donc c'est pas parce que c'est théorique que ça n'est pas professionnel, c'est ça que je veux dire. Bon. Et donc, cette scolarisation conduit aussi les élèves à construire aussi de nouvelles ambitions, mais ça ne se fait pas indépendamment de nouvelles exigences vis-à-vis des enseignants. Hein. C'est-à-dire, le paradoxe, si vous voulez, c'est que, d'un côté, les référentiels de formation comme de certification induisent un processus de scolarisation, et de l'autre, les élèves, quand ils arrivent au lycée professionnel, ils sont persuadés qu'ils vont apprendre un métier professionnel et pratique. D'ailleurs, ils vous disent ce qui est bien, c'est la pratique. Et donc, ils découvrent que c'est encore l'école, ce qui veut dire que pour les enseignants, il faut inventer des situations pédagogiques qui permettent d'accrocher. Et ce que j'ai vu, après avoir observé des établissements et des enseignants, je donnerai un peu une référence tout à l'heure, hein, dans un article que vous pouvez consulter en ligne, c'est qu'en fait, les pratiques pédagogiques des enseignants de lycée professionnel sont des pratiques qui relèvent du bricolage. Hein. C'est le bricolage au sens positif du terme. C'est pas bricolage. Hein, bon, c'est on invente des situations. On va essayer de trouver des exemples concrets pour accrocher les élèves, pour leur montrer du sens. Et donc ces situations ne sont pas inscrites dans les référentiels, dans les textes ou dans les programmes. Hein. Les programmes donnent des orientations, mais c'est aux enseignants d'inventer des réponses, de trouver des solutions, de trouver des accroches. Et donc vous avez des exemples, comment expliquer une personnalité morale, personnalité juridique, quand on ne va pas rentrer simplement par les savoirs généraux, il va falloir partir de l'expérience des élèves. Donc ça demande une certaine inventivité. Les changements récents, donc on dira un mot, quelques changements récents. D'abord, ce que je disais tout à l'heure, un accroissement du nombre d'élèves qui vont vers la voie professionnelle, hein, par rapport auparavant. Pour la première fois depuis 2011, on a un nombre d'élèves qui sont titulaires d'un bac pro est plus élevé que le nombre d'élèves titulaires d'un bac technologique. Donc c'est pas rien. Hein, ben ça veut dire aussi que, au-delà d'ailleurs de l'effet structure, hein, parce qu'il y a eu un chevauchement, comme vous le savez, entre ceux qui passaient par un BEP et ceux qui ont passé donc le bac pro 3 ans. Donc on constate. Du coup, ça induit un autre effet, un léger rajeunissement des élèves, avec les difficultés qu'on peut rencontrer, par exemple pour le stage, trouver des stages en fonction des âges. Difficultés aussi quand les enseignants vous disent on a un peu de mal à ce que les élèves soient autonomes. Alors je ne vais pas vous apprendre que l'autonomie dans notre système scolaire, quand même, elle reste à inventer. Hein. Je ne suis pas sûr que l'élève qui réussit bien à l'école soit suffisamment autonome. Alors quand on dit qu'il faut apprendre à être autonome, c'est quand même une gageure. Je pense que les élèves de lycée professionnel sont beaucoup plus autonomes quand ils vont aller faire des recherches pour trouver une entreprise pour leur prendre en stage que les élèves qui suivent une scolarité sans difficulté et qui développent d'ailleurs des attitudes totalement conformistes. Hein. Et donc cette notion d'autonomie, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Donc c'est pas étonnant que des élèves arrivant à 15 ans en lycée professionnel ne soient pas autonomes comme on voudrait qu'ils le soient. Ces changements aussi, je termine un peu sur ce point, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les changements concernent aussi les attentes parentales, hein, les familles vis-à-vis de l'école. Un changement majeur qui a touché les lycées professionnels, c'est qu'en fait, les formations, et je ne vous apprends rien à ce niveau-là, les formations évoluent, les intitulés évoluent, les contenus évoluent très très vite, à tel point que si vous comparez un référentiel d'il y a 10 ans en mécanique automobile, il n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et un parent qui est mécanicien ne comprend pas ce que son fils est en train de faire ou sa fille quand il est dans la même filière. Donc en fait, quand on dit reproduction sociale, il faut aller plus loin, ce n'est pas une reproduction à l'identique. C'est aussi qu'il y a des évolutions qui font que parfois les parents ne comprennent pas. Alors quand ils ne comprennent pas, il n'y a qu'une chose qui apparaît fondamentale dans leurs propos, c'est de grosses inquiétudes, hein, au niveau de l'insertion professionnelle, c'est évident. Les parents sont très inquiets et cette inquiétude, elle se renforce aussi des difficultés d'insertion professionnelle. Donc les élèves de lycée professionnel, comme à l'image de leur milieu social, donc ouvriers, surtout des ouvriers employés, c'est 80%, hein, le profil, eh bien, ils sont quand même dans un rapport à l'urgence, un rapport aussi à, finalement, à l'opportunité, hein, et puis finalement, aux contraintes. C'est-à-dire, grosso modo, il est plus difficile pour un enfant d'ouvrier d'être dans un projet à long terme que pour un enfant de cadre. Donc le rapport aux études se construit au coup par coup. Et donc, de ce point de vue, ne jamais oublier, quand on travaille avec les élèves sur leur projet, qu'ils n'ont pas la même temporalité que la temporalité des classes moyennes à laquelle appartiennent les enseignants. Hein, c'est un rapport au temps. On fait au fur et à mesure cette notion d'urgence, une grande conscience, une conscience aussi vive des injustices. Ce qui d'ailleurs explique, par exemple, un élève qui me disait hier, j'ai réagi violemment face à une prof parce qu'elle m'a fait une remarque et je n'ai pas accepté qu'elle me fasse la remarque devant les autres camarades. Ça, c'était pas une grosse remarque, c'était une remarque même sur le mot de la plaisanterie. Il a mal pris. Parce qu'en fait, la conscience vive, si vous voulez, des injustices fait que des élèves, parfois, qui réagissent très vite. Hein, et donc, du coup, on est aussi dans des arrangements, dans des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on croit, parce que on a aussi des temporalités différentes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours été assez méfiant vis-à-vis de cette notion de projet professionnel, projet sur le long terme, parce que ça induit des temporalités qui ne sont pas forcément les mêmes, et donc sur lesquelles il faut aussi travailler. Ce qui nous amène, donc, m'amène à la question des élèves. Hein. C'est-à-dire, au fond, quand on interroge les élèves, quand on les observe, quand on voit un petit peu leur parcours, ça nous renseigne aussi sur les pratiques pédagogiques. Alors j'ai décidé ici, rapidement, hein, quelques points qui vont faire sans doute écho à des choses que vous avez vues et qui interrogent aussi la façon de travailler. Hein. D'abord, première chose, les notes comptent le projet. Hein. Je parlais à l'instant du projet des élèves. En général, les élèves de lycée professionnel, ils ont des projets, mais plus des projets de vie que des projets professionnels. C'est-à-dire, ils aspirent aussi, comme la jeunesse, à avoir une vie familiale, vie sociale, etc., dite normale. Et en même temps, les études, ben, ma foi, si je suis dans la filière que j'ai demandée, ce serait très bien. Sinon, bon, je vais voir. Et donc, en fait, même quand ils choisissent, on s'aperçoit, l'orientation, on s'aperçoit que c'est davantage une opportunité qu'un projet qu'ils vont saisir. Hein. Ce qui explique d'ailleurs que dans beaucoup de cas, ils choisissent le lycée professionnel de proximité ou le lycée professionnel où on va se retrouver un petit peu entre soi. Donc c'est la notion de projet, elle n'est pas forcément celle que l'on croit. Cependant, il y a quand même le rôle que jouent les notes dans l'orientation. Hein. L'orientation scolaire reste fondamentalement basée sur un système de notation, qui d'ailleurs interpelle les élèves. Par exemple, nombre de fois où les élèves vous disent « Mais quel lien y a-t-il entre le fait d'avoir une bonne note et d'être pris en coiffure ?» C'est-à-dire qu'ils posent des questions qui sont celles, on va dire, de bon sens. Hein. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être bon en français je ne sais pas, moi, réparer une machine? Ils ne voient pas toujours le lien. Autrement dit, tant que l'orientation reste scolaire, en même temps, c'est-à-dire sur des critères, le projet est un peu indéterminé, pose problème, soulève des questions. Cela dans un contexte hiérarchisé. Hein. Quand j'avais enquêté, et là je voyais bien dans les notes de ministère, il y a effectivement le taux de pression qui fait aussi qu'il y a une hiérarchie des spécialités qui conduit des élèves parfois à se sentir encore plus relégués dans le système scolaire quand la formation, la spécialité est moins demandée. Donc le système, dès lors qu'il est hiérarchisé, conduit aussi à cette intériorisation d'une sorte de dignité, on est plus ou moins digne. Et si on ne fait pas l'hypothèse que cette hiérarchie des spécialités contribue à donner un sens aussi à l'expérience, on ne comprend pas, par exemple, pourquoi des élèves aspirent aussi, à la fin des études, à poursuivre des études, parfois dans un domaine qui n'a rien à voir avec la spécialité qu'ils ont préparée. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de ces dynamiques qui interviennent notamment dans ces formations. Troisième tension aussi qui caractérise cette expérience, c'est cette tension de grandir ou rester élève. Hein. Un exemple, quand vous interrogez les élèves sur le stage, en général, ils vous disent, en général, c'est pas toujours le cas, j'ai eu même des contre-exemples hier, ils vous disent le stage c'était très bien parce que on a appris à faire des choses et puis surtout on a appris. On était dans une relation d'égalité. On était un peu avec les salariés ou les ouvriers, donc on était un peu pris en considération, au-delà du savoir-faire et du faire, etc. Bon. Et en fait, c'est pas seulement ça. C'est une certaine idée de l'autonomie, une certaine idée dont je parlais tout à l'heure, de fait de grandir. Et il y a une sorte de hiérarchie qui fait que l'élève, de manière absolue, pense qu'il est plus adulte quand il est en entreprise, qu'il est un peu plus adulte quand il est dans la pratique et qu'il est un peu plus élève quand il est en classe. Et donc ça induit aussi des choses, ça induit des rapports différenciés à l'école, par exemple au niveau de la vie scolaire, quand les élèves disent quand on a un problème, il faut que les CPE s'adressent à nous, parce qu'on est adultes, plutôt que s'adresser aux parents. Donc il y a cette thématique du grandir qui va de pair avec l'expérience et la capacité à peser sur ce que l'on fait, donc avoir une autonomie d'action, et donc aussi dans la logique du faire. Quatrième tension expliquant un peu cette expérience, ce sont les stages en entreprise qui apparaissent à beaucoup d'élèves comme un moment de formation, un moment donc d'autonomie, d'indépendance, je disais à l'instant, mais qui interroge aussi la légitimité du lycée professionnel. Par exemple, la légitimité des savoirs, la légitimité des infrastructures. Et donc, les stages en entreprise sont perçus par les élèves comme un lieu de professionnalisation, pour utiliser ce grand terme, mais rarement comme un lieu d'application de ce que l'on sait à l'école. Hein. Du coup, quand ils reviennent à l'école, au lycée professionnel, pour reprendre leur terme, ils ont l'impression qu'ils reviennent un peu à l'école. Et donc, il n'y a pas toujours un lien entre l'école et la vie professionnelle, ce qui explique aussi la nécessité pour les enseignants d'inventer des contenus d'un point de vue pédagogique, mais aussi didactique, pour faire des liens entre ce que l'on fait à l'école et ce que l'on fait au milieu professionnel. D'autant plus que, et je vais faire une parenthèse tout à l'heure sur le CCF, quand je disais, c'est un bon concept, la conception, le fait de valider des compétences, il y a une chose qui m'a frappé dès le départ quand j'ai interrogé les élèves, il y a déjà quelques années, et c'est quelque chose qui reste encore ancré aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils font bien une différence entre faire et apprendre. Faire et apprendre. Alors par exemple, ils vous disent, si je fais un montage et qu'il ne fonctionne pas, je vois qu'il ne fonctionne pas, donc je suis capable de m'auto-évaluer. Si je fais un exercice en français, en mathématiques, ou même un exercice en technologie, qui est plutôt sous la forme écrite, c'est le prof qui sait. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise de la situation professionnelle qui apparaît aux élèves comme étant une... c'est très empirique, en fait. C'est une sorte d'empirisme lié à l'action qui entraîne donc ces élèves à dire, voilà, j'ai réussi, je vois que j'ai réussi, donc j'ai pas besoin qu'on me dise tu as pu faire, alors que la relation pédagogique, c'est plus scolaire, parce que c'est l'enseignant qui sait, et donc on s'en remet au prof qui doit savoir. Ce qui d'ailleurs interroge aussi sur la manière dont les enseignants font, comment ils font pour amener les élèves à apprendre à travers leurs erreurs. Parce qu'on voit bien ici que c'est un peu cet enjeu-là. C'est-à-dire réussir pour l'élève, réussir dans certains contenus, ça ne renvoie pas au même processus intellectuel et à la même situation, selon qu'il s'agisse de savoir qu'on va appeler savoir théorique de façon générale ou de savoir d'action. Donc c'est une tension. Et donc il reste l'élément important, c'est cette question du rapport au savoir sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais bon, c'est pour rappeler un peu la diversité de ces publics. Alors, le rapport au savoir, quatre types. Il y a quatre types que je vais présenter rapidement, qui se confirment d'ailleurs, et je vois il y a des gens qui ont travaillé un peu sur la voie technologique qui retrouvent à peu près les mêmes observations, sauf que ça ne se répartit pas de la même manière. D'abord, il y a un premier type qu'on peut appeler un rapport pratique au savoir. Un rapport pratique, c'est l'élève qui ne s'intéresse au savoir que parce qu'il répond à des problématiques concrètes. Un métier, une activité, savoir faire du français pour des lettres de motivation, savoir faire, par exemple, avoir des connaissances pour la culture, dans le cadre notamment du métier, dans le cadre de la vie. Donc un rapport presque utilitaire. C'est un peu une forme de rapport au savoir pratique. Et puis une deuxième forme de rapport au savoir, vous allez reconnaître d'ailleurs, pensez bien aux élèves que vous connaissez, deuxième type de rapport, c'est une forme de rapport réflexif au savoir. Alors réflexif au savoir, c'est le fait que les élèves réalisent que les savoirs sont aussi formateurs de soi. Et surtout, ils réalisent que les savoirs qui étaient à un moment inaccessibles au collège le deviennent au lycée professionnel. Et donc, quand l'élève découvre, je prends un élève d'ailleurs hier qui est en difficulté de ce second professionnel, un élève qui est en difficulté parce que il rentre un peu dans le jeu de, il est un peu dans une situation, si vous voulez, de conflictuel. À chaque fois, il cherche des conflits. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Et il me dit, voilà, en fait, il y a qu'une matière qui le passionne, c'est les mathématiques. Parce que j'ai réalisé que quand j'ai fait ma seconde générale technologique, qui avait déjà été réorientée l'année dernière, je n'étais pas très bon. Et donc, du coup, j'ai réalisé avec un prof qui est vraiment très, très bien. Alors, il loue le prof en disant, d'ailleurs, il dit dans la phrase, je lui demande, je peux lui poser 100 fois la même question. Eh bien, 100 fois, il va me répondre. Il est très patient, notre prof. Donc, il est très intéressé par la relation mathématique, on parlait tout à l'heure. Donc, il est il est dans cette posture en partie, c'est-à-dire je découvre que je suis capable de réussir là où j'ai échoué auparavant, donc pourquoi pas. Forme réflexive. Des élèves qui valorisent l'enseignement général, qui valorisent l'activité intellectuelle, comme une forme de revanche sur ce qu'ils ont vécu auparavant. Et donc on n'est pas étonné de voir aussi qu'une partie de ces élèves, sans toujours discréditer l'enseignement professionnel, hein, aspire aussi à poursuivre des études par la suite. Donc, il y a un effet aussi, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, maturation, il y a quand même un effet lié au rapport au savoir dans la formation intellectuelle et puis la volonté de poursuivre des études. Puis il y a une troisième forme qui est très critique, qui caractérise les élèves qu'on appellera plus tard des décrocheurs, des élèves qui sont dans une situation d'indétermination, absence de sens aux études, d'élèves qui attendent la fin de l'année ou une opportunité pour changer d'orientation sans toujours avoir de projet. Il faut bien savoir que les élèves, quand ils quittent le lycée professionnel, ça n'est pas qu'ils le quittent parce qu'ils ont un projet très précis qu'ils veulent réaliser, mais parce que, à un moment donné de leur parcours, l'expérience en elle-même n'a plus de signification et il y a un temps, ils ont besoin d'un temps, ce qui d'ailleurs nous pose un problème dans l'éducation nationale. Faut-il faire le bac pro 3 ans ou 4 ans? Il y avait une possibilité, il y a un débat là-dessus. Parce que, voilà, il y a des moments où l'élève ne trouve pas de signification. Donc, ils rentrent dans des conflits, parfois, qui font parfois écran sur les savoirs. Et ce sont des élèves qui sont aussi en difficulté d'intégration dans leur propre classe. Donc, ça induit un peu ce que j'ai appelé une forme désimpliquée. Ils font désimpliquée. Je ne trouve pas sens à ce que je fais. Et c'est pas, là encore, une question de capacité. Il se trouve d'ailleurs, quand on avait enquêté il y a quelques années sur l'abandon au lycée professionnel, que beaucoup d'élèves étaient dans cette position. Et suite à une formation, suite à un temps d'indétermination, ils ont pu trouver le goût aux études par le biais d'autres modèles pédagogiques, d'autres situations. Donc forme des impliqués. Et puis une quatrième forme, qui est très rare, mais qui est la plus heureuse, je dirais, dans le lycée professionnel, c'est une forme que j'ai appelée une forme intégrative, évolutive des savoirs. C'est-à-dire, l'élève ne hiérarchise pas en des différents contenus. Il parvient à mettre en relation les différents contenus de savoir. Finalement, j'ai appelé ça, il parvient à mettre en dialogue ces différents contenus. Le fond du problème au lycée professionnel, c'est aussi cette articulation entre les différents enseignements. Et donc, quand l'élève parvient à vous dire, dans le cadre d'un entretien, que vous l'observez, élèves en général qui sont très bonnes réussites en lycée professionnel, ils vous disent, voilà, je suis capable de tenir une conversation, je suis capable d'avoir un propos qui tient la route par rapport à des clients en hôtellerie, alors comme par exemple c'est l'hôtellerie, puisque c'est le secteur où l'articulation est la plus forte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève qui est dans cette posture ne s'estime jamais comme étant quelqu'un qui sait tout, ni quelqu'un qui ne sait rien, mais qui est toujours en position d'apprendre. Et donc, il met la même légitimité pour les profs que pour les tuteurs de stage. C'est l'idéal, j'ai envie de dire. Et donc, ce sont les élèves qui, finalement, par leurs mots, comprennent que savoir, c'est aussi pouvoir. Donc, c'est une forme de quatre typologies qui, si vous voulez, permettent aussi de dire qu'il y a des rapports variés au savoir chez les élèves, alors qu'ils viennent d'un même milieu social globalement. Et la chose qui est frappante, c'est qu'en fait, peu d'élèves apprennent chez eux les leçons, peu d'élèves font de devoirs. Ils vous disent, de toute façon, les profs ne donnent pas de devoirs. Les enseignants aussi ont abandonné cette idée parce qu'ils savent que l'emploi du temps est chargé, que les élèves viennent de loin, etc. Et puis, ils craignent aussi que s'ils donnent des devoirs qui ne sont pas faits, on rentre dans des conflits encore. C'est inutile. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'essentiel des apprentissages se fait quand on est au lycée professionnel. Et donc, il faut être attentif quand on est dans la classe, aux pratiques et aux rapports des élèves aux apprentissages, parce que c'est à ce moment-là que ça se joue. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait une forte tension entre l'élève qui réussit parce qu'il se distingue et l'élève qui doit s'intégrer au groupe. Pas plus tard, là encore, c'est systématiquement, quand je fais des entretiens, je fais à la fois des entretiens individuels et des entretiens collectifs. Collectif, c'est très intéressant parce que, voilà, il y a des échos et vous voyez très vite un peu à l'échelle d'un groupe classe ou d'une demi-classe, il y a des tensions qui renseigne aussi sur des jugements de valeur. Par exemple, dans un entretien collectif d'élèves de bac pro, certains disent « Ah oui, lui, de toute façon, il réussit très bien parce que c'est un intellectuel ou un télo. Ah, nous, on est que des ouvriers. Nous, on est des petits riens. » Vous voyez, tous ces éléments-là renvoient aussi à une forme de hiérarchisation subtile qui explique que parfois l'élève qui est en réussite peut être aussi par moments chahuteur. Donc des stratégies d'adaptation, des stratégies d'intégration dans un système qui met aussi une forme de compétition, même si les élèves de l'ELP, plus qu'ailleurs, sont un peu plus solidaires, en tout cas ils développent des stratégies un peu plus solidaires dans la vie que d'autres élèves. Alors, ça nous amène donc à un autre point qui est important pour les pratiques pédagogiques des enseignants qui se joue, c'est ce que j'ai appelé finalement l'altérité des apprentissages. Au fond, il y a trois acteurs importants. Il y a bien sûr les camarades et les copains qui ne se confondent pas toujours, copains de la vie ou copines de la vie. Donc, les relations aux camarades sont aussi partie prenante de la participation et de la mobilisation scolaire. Hein. Et de ce point de vue, ça veut dire aussi que lorsqu'on constitue des groupes de travail au lycée professionnel, faire travailler des élèves en groupe, les affinités jouent aussi. Hein. Et elles peuvent jouer aussi bien positivement que négativement. Donc c'est une sorte d'alchimie qu'il faut trouver. Pourquoi ? Parce que les élèves se comparent entre eux. Hein. Y a des élèves qui m'ont dit, par exemple, pour comprendre quelque chose, comprendre un exercice, c'est pas le prof seulement qui m'explique, c'est aussi de voir comment les autres ont compris. Donc, je passe facilement au tableau, ou alors je fais des exercices et on essaie de comparer entre nous, sans ces micro-situations qui participent aussi de l'apprentissage. Deuxième acteur important, incontestablement, les familles et les lycées professionnels. Hein. Alors, je l'avais dit l'année dernière, mais j'y insiste encore là. Il faut se débarrasser, dans la mesure du possible, j'ai bien dans la mesure du possible, parce que nous avons des situations où on ne peut pas faire autrement que d'y croire, du mythe de la démission des parents. Hein, c'est un mythe. Alors pourquoi c'est un mythe ? Parce que on part du principe que les parents se désintéressent de l'école, parce qu'on ne les voit pas aux réunions, évidemment ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils donnent raison à leur enfant, bon... tout dépend aussi comment on fait. Vous savez, dans toute relation humaine, il y a la nécessité de préserver la face. Hein, je vous apprends pas cette chose. C'est-à-dire qu'on a une identité qu'on essaye de maintenir, cohérente. Bon. Par exemple, c'est pas surprenant que les parents de milieu populaire en France sont ceux qui réclament le plus de devoirs que les autres parents. Et pourquoi ils réclament plus de devoirs ? Parce que c'est aussi une façon de dire et de montrer aux enseignants qui suivent leurs enfants. Hein, plus on est issu de milieux modestes, plus on a besoin de se justifier. Milieu favorisé se justifie moins. Ce n'est pas un discours gauchisant, c'est la réalité. C'est-à-dire, socialement, il y a des individus qui se sentent plus légitimes que d'autres. Et donc, quand on est moins légitime, parfois le fait de ne pas venir aux réunions, c'est aussi parce qu'on ne se sent pas forcément bien accueilli ou forcément légitime. Et une principale adjointe d'un proviseur adjoint d'un lycée professionnel m'a raconté une expérience qu'elle a pu faire, que je trouve très intéressante, lorsqu'il y a un problème avec des élèves. On convoque les parents, non pas pour les mettre avec leurs enfants ou leur enfant face à l'administration ou aux enseignants, face à l'équipe éducative et enseignante, mais pour les mettre avec l'équipe enseignante et éducative, de façon à montrer que parents et enseignants sont sur les mêmes longueurs d'onde face à l'élève. Par exemple, elle explique quelque chose de très banal. Lors des commissions éducatives, au lieu de mettre les parents et l'enfant en face, les parents sont assis à côté. C'est très stratégique, mais en même temps, c'est très symbolique. C'est-à-dire, on n'est pas dans le face-à-face en disant « c'est la faute à l'élève, c'est aussi la faute aux parents ». On est dans un processus de responsabilisation. Alors bien sûr, ce qu'elle me disait, c'est qualitatif. Ça demanderait de faire des observations, voir un peu si dans d'autres contextes on peut le voir. Mais c'est déjà ça. Hein. La disqualification des parents est extrêmement répandue. Et ça, je l'avais remarqué aussi auprès des PLP qui me disaient, par exemple, dans les entretiens, « Ah ben, vous savez, les parents, ils ne viennent pas. Et quand on les voit, eh ben, on a compris pourquoi les élèves ne réussissent pas. » Donc, si vous voulez, il y a quand même un paradoxe à vouloir mettre en place un partenariat quand les parents sont disqualifiés. Hein, les parents de milieu, on va dire, favorisés, qui connaissent bien le système, eux savent faire, hein, parce qu'ils ont des stratégies très subtiles. Hein, je n'ai pas le temps de développer. C'est-à-dire, les arguments qu'ils avancent sont des arguments qui plaisent aux enseignants, donc du coup, on parle le même langage. Bon. Et donc, le poids central, troisième dimension, qui est importante, et même peut-être la plus importante, c'est ce que j'ai appelé le poids central accordé par les élèves aux enseignants. Donc ça nous amène effectivement aux pratiques pédagogiques des professeurs. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, d'abord, je disais tout à l'heure, forte valorisation des PLP. Les enseignants d'ici professionnels sont plus valorisés que les autres enseignants du collège. Et surtout quand l'élève a fait une seconde générale technologique, il vous dit, j'avais du mal à suivre, j'avais du mal à prendre des notes, et donc là, on prend du temps. Et cette question du temps, ça veut dire une disponibilité de l'institution par ses acteurs qui demande de la part des enseignants de développer ce que j'ai appelé des ruses pédagogiques. La relation aux élèves, elle est plus éprouvante parce que les élèves ne viennent pas que en tant qu'élèves, ils deviennent aussi comme individus, comme sujets, comme tout le monde. Sauf que, effectivement, les difficultés sans doute sociales sont plus importantes quand on est issu du milieu populaire, milieu modeste. Et donc, ces difficultés perturbent un peu la relation. Je vais donner un exemple. Tout à l'heure, quand je parlais d'absentéisme, quand j'interrogeais les élèves sur l'absentéisme, l'absentéisme est dû à plusieurs raisons, y compris quand ils développent des stratégies pour s'absenter. Ils ont compris que parfois, le mode de calcul fait que il vaut mieux, donc ils peuvent arriver à l'heure et puis après quitter avant l'heure. Donc ils savent un peu que parfois ils passent un peu à travers les mailles du filet. Ils développent des stratégies. Bon. Donc quand on dit l'élève s'absente, eh bien, une des raisons, ils vous disent par exemple, je me suis occupé de mes frères et sœurs, je me suis occupé de mes proches, etc. Ça, c'est bien réel, c'est pas seulement des excuses. Donc du coup, on voit très vite ici que l'enseignant, quand il travaille avec les élèves, il s'aperçoit très vite que le changement majeur qu'il va vivre, surtout un nouveau PLP, c'est qu'il va falloir qu'il travaille autrement que selon les modèles auxquels il a été socialisé en tant qu'étudiant et élève. Donc la conversion des enseignants, le PLP, nouvellement recruté, il rentre dans la vie professionnelle, il découvre un nouveau monde qui d'ailleurs, la plupart du temps, fonctionne comme, si vous voulez, un peu le... un monde à part par rapport à ce qu'on a connu, et donc il doit développer une pédagogie qui n'est pas la même que celle qu'il a, à laquelle il a été socialisé, donner une importance à l'expérience, tenir compte aussi de la diversité des élèves, sinon le métier est impossible. Donc ça veut dire aussi partir des élèves pour les amener vers l'apprentissage. Et donc tout le piège, c'est là où je disais tout à l'heure rompre avec le misérabilisme, toute la subtilité, piège qu'il faut éviter. C'est comment les PLP peuvent-ils aujourd'hui faire réussir leurs élèves malgré les difficultés diverses rencontrées par leur public. Le piège dans lequel on peut tomber, c'est de tomber dans le misérabilisme. Misérabilisme conduit des enseignants à dire « Nos élèves ne sont pas sont en difficulté telle qu'il ne faut pas être exigeant avec eux. » Or, c'est aussi en étant exigeant avec les élèves tout en dosant un peu les exigences, que l'on peut aussi amener les élèves à se mobiliser sur les savoirs. Donc, ce que j'ai appelé la subtilité du travail, c'est comment concilier socialisation et apprentissage. Comment concilier écoute des élèves et travail sur les compétences et la formation. Alors, je ne vous apprends pas que les élèves disent, première chose qu'ils découvrent en LP, c'est que les profs sont un peu plus sympas dans la relation. Ils sont aussi, ils notent moins sévèrement. Ils notent moins sévèrement parce que les enseignants de lycée professionnel, et ça, c'est un constat, mais ça veut dire aussi que c'est amené à évoluer, je vous expliquerai après pourquoi, ils ont intériorisé ce que j'ai appelé, ils n'ont pas intériorisé, plutôt, l'image du client idéal. C'est-à-dire que nous savons, à travers les sociologues américains, interactionnistes, en particulier Hooks par exemple, ou Howard Becker il y a quelques années, que chaque individu, quand on travaille dans les métiers du travail à autrui, comme le métier d'enseignant, on s'attend toujours à avoir un type d'individu. Je veux dire, Hughes, quand il a travaillé sur les médecins américains, il disait, à l'époque, c'était dans les années 50, quand vous alliez voir un médecin, on s'attendait surtout à ce que ce soit un homme, par exemple, plutôt qu'une femme. Donc, en fait, on a une certaine représentation du type d'individu qu'on va avoir. Et donc, quand Becker avait travaillé sur les enseignants, il avait montré que les enseignants des écoles primaires, fraîchement sortis de leur école professionnelle, l'équivalent de l'IUFM et futur SP aujourd'hui, avaient intériorisé l'image du client idéal. Il utilise le terme client idéal, c'est-à-dire des élèves très intéressés par les savoirs, très motivés, ils arrivent, ils sont engagés très vite, j'ai même pas besoin de faire du silence, de demander silence, ils vont jouer le jeu. Alors il s'aperçoit en fait qu'en réalité c'est loin d'être le cas. Et les enseignantes passaient un temps fou à faire la discipline, passaient un temps fou aussi à travailler sur le vocabulaire des élèves. Donc il a fallu refaire de la socialisation. Mais le problème, ce que montrait Becker déjà en 1952, c'est que ces enseignantes, en étant succombant au misérabilisme, en arrivaient à être moins exigeantes avec leurs élèves. Ce qui fait qu'à la fin, ils avaient moins d'acquis. Ils étaient en difficulté quand ils passaient dans l'équivalent du collège, alors qu'on aurait pu être plus exigeant avec eux. Donc en fait, ce que Becker montre dans ce travail, et c'est là où je veux revenir ici, c'est que les enseignants, malgré la connaissance des élèves et de leurs difficultés, doivent maintenir un niveau d'exigence. Il en va aussi de la dignité des élèves, parce que les élèves, effectivement, leur fierté, elle se construit par la réussite, et pas seulement par être bien dans les relations, etc. Pourquoi j'ai dit que les PLP n'ont pas intériorisé l'image qui est idéale ? C'est parce que certains d'entre eux vous disent « Je ne comprends pas, on a des élèves qui sont excellents, qu'est-ce qu'ils font ici ?» Donc du coup, ils sont étonnés d'avoir des élèves en réussite. Alors, chose qui va évoluer, notamment avec la poursuite d'études. Un élève qui est en réussite, on a tout à fait le droit d'être en lycée professionnel et d'être en compte réussite, et avec la propension à la poursuite d'études, évidemment, ça veut dire aussi qu'on a toute l'attention du lycée professionnel aujourd'hui, plus qu'avant, c'est pas seulement de préparer à l'insertion professionnelle, c'est de préparer aussi à la poursuite d'études. Et donc, au niveau professionnalité enseignante, là encore, ça pose des questions. Quelle articulation entre le bac pro et le BTS ? Quel type de liaison on va faire ? Sur quel contenu on va travailler ? Il y a des établissements qui ont, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, développer aussi des heures de soutien et d'approfondissement dans cette perspective. Donc j'avais déjà dit que la valorisation de la voie professionnelle, c'est aussi la poursuite d'études, ça se confirme effectivement avec ces éléments-là. Alors rapidement, de façon à ce qu'on puisse avoir un temps d'échange, sur les PLP, les pratiques pédagogiques, j'insiste rapidement sur des choses que j'ai dites à l'instant, des élèves perçus comme étant en difficulté sociale et familiale, culturelle aussi, disqualification, donc faut faire voilà, c'est un objet à part entière. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait des entretiens avec des PLP, je m'aperçois aussi que certains PLP eux-mêmes racontent leur propre parcours scolaire et disent nous avons vécu tel ou tel type d'expérience, tel type de discours pédagogique qu'on veut éviter. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple qui est très frappant, un PLP qui me dit quand j'avais une hantise quand j'en rentrais au lycée, je suis rentré au lycée professionnel, comme mon père était au chômage à ce moment-là, c'est qu'on me demande ce que faisaient mes parents. Ça veut dire que l'élève déjà se dit, si jamais je dis qu'il est au chômage, c'est déjà disqualifiant, hein, ce qui quand même interroge. Hein. Vous voyez, c'est un peu toute la difficulté quand on dit il faut aider les élèves en essayant de les comprendre. C'est aussi les comprendre jusqu'où, est-ce que ça ne peut pas induire des a priori, hein, du point de vue de l'élève, c'est aussi une manière de voir les effets potentiels dans cette relation. L'absence de client idéal, c'est ce que je disais. Et donc voilà. Alors je vais terminer donc ici par un peu l'évolution des programmes. Alors, je rappelle une chose, hein, que vous connaissez, mais ça, pour insister un petit peu quand même là-dessus, quand même, le lycée professionnel, il a cette particularité d'être le plus ouvert sur les milieux professionnels. Je parlais tout à l'heure des stages, donc il y a des évolutions. Ça se traduit par une rénovation permanente, en tout cas une évolution des contenus. Ça déstabilise les enseignants parce que les contenus technologiques et professionnels obligent notamment régulièrement à des ajustements. Ça oblige aussi, du point de vue des établissements, à inventer, à créer aussi des situations de formation collective. Et la mise en place du contrôle en cours de formation, elle est aussi de nature à harmoniser les pratiques pédagogiques. Hein, parce que dans la mesure où on évalue des compétences, ça suppose aussi que les enseignants s'accordent sur ce qui est attendu des élèves. Et peut-être que mon collègue Didier Michel vous en a parlé le lundi. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a une certaine difficulté chez les PLP à assumer le fait qu'ils puissent aussi évaluer leurs propres élèves. Hein, cette idée, ce sentiment qu'on n'est pas juste. Bon. Or, dans les statistiques, il n'y a pas de différence entre l'évaluation faite par les enseignants, leurs propres élèves, et l'évaluation faite par d'autres enseignants. Dont les a priori, on pense que dans la mesure où ce sont mes propres élèves, je vais être peut-être un petit peu plus indulgent. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu l'effet au-delà des représentations. Donc ces évolutions font qu'aujourd'hui, les programmes d'enseignement, les programmes, ce qu'on appelle les contenus donc enseignement technologique professionnel, traduisent des évolutions économiques, mais ne traduisent pas forcément tous les secteurs économiques. Je le redis d'autant plus que ça vous arrivera, et ça vous est déjà arrivé, notamment les PLP dont vous avez la responsabilité quand vous les suivez en formation, ou quand ils découvrent, ils vous disent « Eh ben, quand on a été en stage, voir nos élèves, vous visiter, on s'est aperçu que le tuteur nous a dit « Finalement, les contenus du stage ne correspondent pas vraiment aux activités que l'on exerce. » Et parfois, les élèves eux-mêmes vous disent « J'ai fait un stage dans tel ou tel secteur et je me suis aperçu que les compétences, c'était pas vraiment ce que j'avais appris à l'école. » Alors, pourquoi? Parce que il y a des secteurs qui sont plus influents sur les contenus et sur, notamment, les curriculums. Donc, je le dis bien en m'appuyant sur des travaux. Par exemple, si vous lisez, il y a un article, il y a la Revue Française Pédagogie, j'ai vu il y a quelques contributions, notamment d'une sociologue qui a travaillé sur l'histoire de l'enseignement professionnel aussi, qui est Lucie Tanguy. Elle avait montré, par exemple, que dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur de la métallurgie, il y a des entreprises qui sont plus représentatives. Donc, du coup, elles pèsent aussi sur les contenus de programme. Donc l'individu, un garagiste, peut très bien se dire « Oh ben finalement, ce que l'on demande aux élèves, c'est pas vraiment ce que moi j'attends d'eux. » Donc il faut bien l'avoir à l'esprit. Ce qui veut dire aussi que, comme on forme à des compétences, la question des compétences transversales, des savoirs associés, devient aussi importante, et pas seulement les programmes en eux-mêmes. Alors, ce qu'on peut dire ici par rapport à cette évolution des programmes et donc d'évolution des curricula. D'abord, transformation des modes d'évaluation des élèves qui mettent à l'épreuve les modes d'évaluation traditionnels. Je m'assure que mes élèves maîtrisent des compétences. C'est pas la même chose que je m'assure qu'ils ont bien appris des connaissances. Là, évidemment, ça devient plus empirique, mais ça a l'avantage, du point de vue institutionnel, de s'assurer à la sortie que nos élèves ont effectivement des compétences bien attestées. Et donc ce que nous avons remarqué, par exemple dans l'enseignement secondaire, dans les collèges, c'est un certain nombre de difficultés qui font que parfois on traduit une note en compétences. Donc c'est pas ça le but du jeu. Mais là encore, c'est pas pour dire que les enseignants n'ont pas voulu, mais c'est aussi de dire que c'est à construire. C'est ça la difficulté en même temps. Pourtant, donc l'enseignement professionnel, il a été pionnier, il faut bien le dire. Souvent, j'ai parlé dans un article il y a quelque temps des fameuses ENNA dans le temps, et on m'a dit, à un collègue et ami qui me dit, on a l'impression que tu es nostalgique par rapport à la période des ENNA. Et en fait, les ENNA avaient déjà inventé ce système. On travaille d'abord sur des savoir-faire et on part de l'expérience pour finalement aller vers le général. Donc ils étaient dans l'inductif. Très intéressant. L'enseignement professionnel a été pionnier dans ce secteur. Il a été pionnier dans la pédagogie du projet, et donc ce serait un peu, j'ai envie de dire, raison qu'on rend à cet enseignement que de réussir un peu ces modes de validation qui pèsent néanmoins sur les emplois du temps, qui obligent aussi à articuler les contenus. Par exemple, est-ce que le CCF pour valider le diplôme intermédiaire, est-ce qu'il se situe dans la continuité par rapport au bac pro ou est-ce qu'il est en parallèle? Donc c'est des enjeux sur les contenus, les objets à évaluer. Donc passage de l'enseignement à l'obligation d'évaluer. Sur le mode du travail, on peut dire qu'il a un impact, au terme de quelques enquêtes dont on dispose, notamment les mêmes observations, je pose systématiquement pour voir dans les lycées professionnels comment ça s'organise. Évaluation certificative, consacre la formation au cœur du processus d'apprentissage, augure aussi, alors théoriquement, d'une meilleure lutte contre le décrochage scolaire et meilleure réussite donc des élèves. C'est vrai que de ce point de vue, l'élève en réussite, c'est aussi l'image que l'on renvoie aux enseignants, donc en fait la mobilisation des enseignants, elle est fortement arrimée à la réussite de leur public. Alors, les tensions rapidement déstabilisent les enseignants habitués à un mode d'évaluation classique. Il prend beaucoup de temps, chronophage. Soulève des questions éthiques, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on s'achemine pas vers un diplôme maison, c'est un peu le risque. Est-ce que d'ailleurs l'inspection générale a pu repérer dans des évaluations? Il oblige aussi à une individualisation. Par exemple, quand on dit tel élève, il est parvenu, donc je valide. Tandis que les autres, qu'est-ce que j'en fais? Donc, du coup, ça déstabilise, ça perturbe un peu. Parfois aussi, la validation, comme elle est transversale, elle implique plusieurs mêmes validations par des enseignants. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les élèves, quand ils sont interrogés sur la compréhension d'évaluation, ils comprennent pas toujours le CCF, hein, pas toujours le bon, habitué, on va dire, à l'évaluation classique. Très lourd en première et en terminale, et cela va de pair aussi avec la multiplication des dossiers que l'on demande aux élèves. Donc il est évident que ce modèle implique une plus forte flexibilité des modes d'évaluation et sans doute aussi une certaine aussi adaptation en fonction notamment des périodes de stage. Alors, d'un point de vue sociologique, je dirais, aux observations, les élèves, ça permettrait aussi ce CCF à rompre un peu, réduire la tension entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, cette tension qui est classique. Et j'insiste quand même sur une chose, c'est que les compétences, ça ne veut pas dire oublier les savoirs. Hein. Souvent, on a tendance à dire, il y a les savoirs d'un côté, les compétences de l'autre. Hein. Quand on dit compétences, comprendre un texte simple, la compréhension, c'est aussi des savoirs. Donc, en fait, c'est parfois une aberration que d'opposer ces deux dimensions. Alors, souvent, on dit du savoir-faire, du savoir-être, du savoir comment faire. Ce sont des savoirs. Sauf que, ils sont, la différence avec compétences, c'est que c'est toujours un savoir situé. Hein, on va dire situé dans une situation, situé dans un contexte. Alors, je vais passer sur des points. Bon, pour vous donner quelques référence, je disais tout à l'heure, il y a des travaux, et notamment, j'ai vu tout à l'heure, donc, les enseignants au lycée professionnel face aux réformes, là, c'est un travail que vous avez, donc, un livre qui est ici exposé. Il y a le livre qu'a dirigé Fabienne Maillard sur la formation et certification, qui montre aussi les paradoxes, hein, l'injonction à la professionnalisation des diplômes, et dans lequel elle montre aussi que le raisonnement en termes de compétences déstabilise un peu la forme scolaire. Il a des avantages et aussi des inconvénients. Et enfin, ce que je peux vous conseiller, si vous avez le temps, j'avais fait un texte il y a quelques années sur les enseignants de lycée professionnel et leur pratique pédagogique, et vous pouvez le consulter. Il est sur le site du CERN, avec des observations un peu plus, on va dire, plus approfondies sur leurs techniques sur ce que j'ai appelé tout à l'heure les ruses pédagogiques. Le CAIRN. Alors le CAIRN, c'est C-A-I-R-N, qui permet de télécharger des articles de revues. Donc je termine là-dessus, hein, parce que pour avoir un petit temps quand même d'échange. Merci.